Chronique de confinement. Le masque et la prune. Une capsule sonore qui donne la parole aux bénévoles de prune depuis chez eux. Récit, billet d'humeur, création. Retrouve le quotidien de celles et ceux pour qui le confinement se raconte.
Bienvenue sur Prune 92 FM ou sur prune.net si vous nous écoutez en podcast. Il est 18h, nous sommes le lundi 1er juin, c'est férié. J'espère que vous profitez bien de ce jour de pause en plus. Continuez de vous détendre parce que c'est l'heure du masque et de la prune, la quotidienne faite à distance par les bénévoles de la radio. Et on commence avec l'émission hebdomadaire « À part le corona, il se passe quoi ?» qui revient sur l'actualité de la semaine, mais sans parler du virus, ni de confinement, ni de déconfinement, mais de tout le reste.
D'abord, on commence par se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou du savon.
Que les gens, ils ont besoin d'être protégés, point.
Déconfinement. Qui va commencer à partir du 11 mai.
Déconfiner d'abord les beaux gosses, les hommes, les beaux.
Les masques.
On pose le masque.
Des masques.
Sur le visage.
C'est là que je réalise que le déconfinement, c'est comme le confinement, mais avec le droit de consommer des trucs dont on n'a pas besoin.
Le déconfinement.
Bonjour à tous auditeurs déconfinés de France et d'ailleurs, bienvenue dans « À part le corona, il se passe quoi ?», l'émission qui parle de l'actualité sans virus, de culture un peu virale et surtout du monde de demain. Cette émission faite maison est bricolée par Sophie, Lucas, Solène et Caroline, journalistes de Canapé et étudiants à l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours. Au menu cette semaine, l'actualité garantie sans Covid-19 en France et dans le monde. Et cette semaine, pas d'interview ni de reportage, mais on vous a réservé quand même un petit quelque chose sympa, promis. Et enfin, on terminera avec la pause culture, et cette semaine, c'est Caroline et Solène qui nous font découvrir leurs trouvailles. Et commençons tout de suite par les informations.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Les grands titres du journal.
C'est parti pour un petit tour de l'actualité en France.
Et on commence par un rapport alarmant du gendarme du nucléaire. Mercredi 27 mai, le président de l'autorité de sûreté nucléaire a en effet estimé qu'il y avait un déficit de culture de précaution dans le pays. Ce constat se base sur deux incidents sans conséquences majeures survenus en 2019 dans les centrales d'EDF à Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, et à Pinly, en Seine-Maritime. Le niveau de sûreté des installations a quant à lui été jugé acceptable. La veille, le mardi 26 mai, les parlementaires ont voté à l'unanimité le rallongement du congé de décès d'un enfant de 5 jours à 15 jours. Le refus de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, d'allonger ce congé avait provoqué des tensions au sein de la majorité en début d'année. Aujourd'hui, la ministre salue un travail de co-construction qui va permettre de créer rapidement des droits nouveaux. Jeudi 28 mai, dans l'Ain, les autorités ont alerté sur l'apparition d'un foyer de cas d'encéphalite à tique. Maladie très rare provoquée généralement par la piqûre d'une tique infectée, la transmission du virus peut également se faire de façon exceptionnelle par le lait cru. C'est de cette manière qu'auraient été contaminés les habitants de la région. Sur les 24 patients hospitalisés courant mai, une personne est décédée, tandis que 22 autres ont pu regagner leur domicile. C'est une première sous la Ve République. L'Assemblée nationale compte désormais 10 groupes politiques depuis mardi 26 mai. Le président du nouveau groupe, le député du Haut-Rhin Olivier Becht, dit se situer dans la majorité. Il comprend 17 députés Agir et La République En Marche. Avec ce 10e groupe, LREM n'est plus majoritaire à l'Assemblée. TF1 condamné à payer 700 000 euros à un ancien journaliste. La chaîne de télé a été condamnée pour licenciement abusif et travail dissimulé. Elle est accusée d'avoir fait travailler pendant 37 ans le journaliste Bruce Frankel sans le considérer comme un employé mais comme un collaborateur local. Une faute découverte lors de son licenciement soudain en 2017.
Et dernière information en France, dans la nuit du 25 au 26 mai, un jour avant la mort de George Floyd à Minneapolis, un cas de violence policière s'est également produit à Bondy, en France. Gabriel, un jeune homme de 14 ans, s'est fait interpeller par les forces de l'ordre. Il dit avoir été roué de coups par un policier. Ses blessures lui ont valu près de 14 jours d'interruption temporaire de travail, où toute activité est proscrite. La violence policière a été, hélas, particulièrement dans l'actualité cette semaine, notamment aux États-Unis, où nous commençons notre tour des nouvelles à l'international.
De nombreuses manifestations aux États-Unis après la mort de George Floyd lors d'un contrôle policier. L'homme noir de 46 ans est décédé lundi dernier. Depuis, des manifestations contre le racisme de la police ont éclaté dans plusieurs villes du pays, menant parfois à des émeutes, des incendies et des pillages. Donald Trump a tweeté que les pillages seraient immédiatement accueillis par des balles, un tweet signalé comme une apologie de la violence par Twitter, une première. À Hong Kong, les manifestations ont repris, d'autant plus qu'un texte de loi controversé vient d'être adopté par le Parlement chinois jeudi 28 mai. La loi sur la sécurité nationale est jugée liberticide par les manifestants pro-démocratie car elle pourrait interdire les rassemblements. Le texte dit qu'il faut empêcher, stopper et réprimer toute action qui menace la sécurité nationale. L'étau sur l'autonomie de Hong Kong par rapport à la Chine se resserre donc encore un peu plus. Le Costa Rica autorise le mariage homosexuel. Mardi 26 mai, le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à autoriser les mariages entre des personnes de même sexe. C'était une des mesures du programme du président Carlos Andrés Alvarado Quesada. En Guinée, 30 morts dans des émeutes après les présidentielles. C'est la première fois que le gouvernement reconnaît que les violences intercommunautaires qui ont lieu après un référendum contesté le 22 mars dernier ont fait des morts. L'Algérie rappelle son ambassadeur à Paris après la diffusion de deux documentaires sur le Irak, ce mouvement de contestation contre le gouvernement algérien qui avait notamment poussé à la démission l'ex-président Bouteflika. Les documentaires nommés Algérie mon amour ont été diffusés sur France 5 le 27 mai.
Et pour finir ce journal, un petit tour du côté des nouvelles loisirs, culture et planète.
On commence cette page loisirs avec une triste nouvelle. Le comédien et humoriste Guy Bedos est mort à 85 ans, jeudi 28 mai. Né à Alger en 1934, Guy Bedos arrive en France en 1949. Son enfance malheureuse, avec un beau-père raciste et une mère qui le bat, le pousse vers le théâtre. Il se fait connaître par ses positions anarchistes et de gauche. Guy Bedos rejoint ses compagnons du film « Nous irons tous au paradis », Jean Rochefort et Victor Lanoux, ainsi que le scénariste Jean-Louis Dabadie, disparu dimanche 24 mai. Côté planète, les États-Unis se préparent à l'invasion de millions de cigales zombies. Non, ceci n'est pas le résumé d'un film de science-fiction. L'espèce de cigale Magicicada a pour particularité de s'enterrer pendant 13 ou 17 ans. La dernière sortie de cigales a eu lieu en 2003, et la nouvelle génération va déferler en Virginie et en Caroline du Nord. On continue de parler animaux, en France cette fois, avec la découverte d'une tortue carnivore près du canal du Midi. Jeudi 28 mai, la gendarmerie de Haute-Garonne a alerté sur la présence d'une tortue Serpentinea à Ramonville. C'est la troisième tortue alligator trouvée en quelques semaines en Haute-Garonne. Plutôt peureuses, ces tortues peuvent mordre si elles sont dérangées. Parlons science maintenant, puisque le champ magnétique terrestre s'affaiblit. L'intensité du champ magnétique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud a diminué de 8% depuis 1970. Cette diminution affecte les satellites et les engins spatiaux. On termine avec une actualité People. Le magazine Forbes retire son titre de milliardaire à Kylie Jenner. Forbes avait consacré sa une à la jeune femme en 2018, la qualifiant de future plus jeune milliardaire de l'histoire, grâce au succès de sa marque Kylie Cosmetics, fondée en 2015. Kylie Jenner est aujourd'hui accusée par le magazine d'avoir menti sur le montant de son chiffre d'affaires de 2018. Sans être milliardaire, sa fortune reste estimée à 900 millions de dollars, soit environ 810 millions d'euros.
Et vous faites un reportage sur ?
Demain !
Demain ?
Demain.
Demain, tout ira mieux.
Depuis le 11 mai, les journalistes de À part le Corona peuvent enfin sortir de chez eux à la découverte du nouveau monde post-virus qui se prépare. Chaque lundi, donc, on rencontre ceux qui construisent cette nouvelle société détoxifiée avec des interviews ou des reportages. Mais pas cette semaine. À quelques jours du rendu de notre mémoire de fin de Master 1, nous, les étudiants qui réalisons À part le Corona, on a dû se reconfiner pour terminer nos travaux dans les temps. Alors à force de penser qu'à ça jour et nuit, on s'est dit qu'on pouvait peut-être vous en parler, à vous aussi. Alors, chers auditeurs, voici les sujets de mémoire de cette année 2020 de Caroline, Lucas, Solène et moi-même, Sophie, pour notre Master 1 de journalisme.
Pour mon mémoire, j'ai réfléchi à la façon dont les jeunes s'informent grâce aux réseaux sociaux et à YouTube. Je me suis intéressée aux pratiques des 15-25 ans et à la façon dont les médias se servent des réseaux sociaux pour capter l'attention des jeunes et présenter l'information autrement. Ce sujet est toujours en mouvement et toujours d'actualité, puisque cette semaine, et pour la première fois de son histoire, le réseau social Twitter a indiqué que Donald Trump avait partagé une fausse information.
Alors, pour ma part, le sujet de mon mémoire, c'est le traitement médiatique audiovisuel de l'immigration en France, de mai 2019 à mars 2020. Et si j'ai choisi de parler de ce sujet, c'est parce que, évidemment, c'est un sujet qui me touche, qui m'intéresse et que j'aimerais parler plus tard, et que je commence déjà un petit peu à traiter. En tout cas, je m'y intéresse de près. Et donc, je pensais, et je trouvais que c'était intéressant de comprendre un petit peu les ressorts, les enjeux sur un tel sujet, avoir des retours de journalistes qui traitent de la question et faire des études de cas. Donc moi j'ai fait des études de cas sur BFM TV et le JT de 20h de France 2 afin de comprendre comment et la manière dont la télé couvrait ces sujets. Et j'étais parti de l'hypothèse que la presse écrite et la radio faisaient un meilleur traitement du sujet. Et au final, je me rends compte que c'est bien plus complexe que ça et que les préjugés qu'on a parfois sur la télé, et notamment sur ces deux chaînes, ils peuvent se trouver démentis. C'est intéressant d'arriver à cette conclusion. C'est un petit peu les éléments que j'apporte dans mon mémoire.
Moi, c'est Solène et j'ai fait un mémoire sur l'identité nationale dans les médias et dans le monde politique aussi, du coup, parce que c'est quand même un peu lié. Je me suis demandé qu'est-ce que ce terme un peu on sait pas trop ce que ça veut dire en fait, l'identité nationale, donc je me suis demandé ce que ça voulait dire. Je me suis rendu compte que c'était récent, on utilise ce terme que depuis les années 80, tout comme les nations en fait. Les nations ça a quoi, 250 ans, donc tout ça c'est des constructions culturelles, ça a été des choix politiques à un moment, mais l'identité nationale particulièrement, c'est utilisé dans les discours à droite. C'est pas tous les groupes politiques qui utilisent ce terme. Je me suis rendu compte dans mes recherches que c'est de plus en plus utilisé. Avant, c'était juste le Rassemblement National, Front National qui l'utilisait. Ensuite, c'était les Républicains. Et maintenant, il y a même La République En Marche qui commence à l'utiliser un peu comme si ça devenait de plus en plus important, l'identité nationale. Et du coup, ce qu'on remarque aussi, et c'est que quand on parle d'identité nationale, on parle pas trop des Français, en fait. Dans les médias, parce que du coup j'ai plutôt étudié les médias, par exemple quand Éric Zemmour il parle d'identité nationale, il parle pas trop de ce que c'est qu'être Français, il parle surtout de ceux qui sont pas Français. Et là l'identité nationale, utilisée par les politiques et par des polémistes, etc., ça sert beaucoup à cibler les immigrés et la religion musulmane.
Alors, mon sujet de mémoire, ça parle de journalisme scientifique et de sciences à la télé et à la radio, puisque je suis très intéressée par les sciences moi-même, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de programmes qui en parlaient. Et en revanche, sur YouTube, il y en a plein. C'est un peu l'explosion de la vulgarisation scientifique sur Internet en ce moment. Donc voilà, je parle un peu du rôle que les journalistes ont à parler de science, du rôle des journalistes scientifiques qui sont formés. Je parle aussi, du coup, de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas à la télévision, à la radio, et je fais ma troisième partie sur l'ouverture avec Internet, et surtout quelle place on a, nous, journalistes, s'il y a des youtubeurs qui font notre boulot mieux que nous, en parlant de science et en la vulgarisant, et en la rendant accessible au grand public. Voilà, plein de questions, plein de sujets à aborder, et j'ai toujours pas fini de l'écrire, donc je vais y retourner.
Détendez-vous, c'est assez pour aujourd'hui.
C'est l'heure de la
culture.
Ah non, parti.
Et bienvenue dans la pause culture cette semaine, c'est Caroline qui nous présente une série, on l'écoute.
Savez-vous au moins qui vous avez fait venir dans votre demeure ?
Cette semaine, je vais encore vous parler d'une série dérangeante parce que j'aime bien ça. Bienvenue chez les Turner avec la série Servante. Les Turner, Dorothy et Sean, sont un jeune couple de Philadelphie. Ils accueillent une nouvelle nourrice, Liane, pour leur enfant. Sauf que leur bébé est mort et que la nourrice va devoir s'occuper d'un reborn child, une poupée plus vraie que nature. Très vite, Liane semble prendre cette mission trop à cœur, ce qui inquiète le père de famille.
Je crois qu'il faut qu'on parle. Tu peux poser ça sur la table.
Il est l'heure que j'emmène Jericho faire sa promenade.
Je ne vous en dis pas plus, mais la série vous réserve de nombreuses surprises. Pourquoi le bébé est-il mort ? D'où vient Liane ? Que vont-ils faire de cette poupée ? Servante est à découvrir sur Apple TV, Et pour les fans d'Harry Potter, sachez que Rupert Grint fait partie du casting. Alors, bonne découverte.
Et Solène, quant à elle, s'est intéressée à un documentaire. Elle va vous en parler.
I was a pretty normal, very busy, kind of a clever person, and now I'm starting from the beginning.
Aujourd'hui, je vous parle du documentaire My Beautiful Broken Brain, mon beau cerveau cassé. Ce docu parle de Lotieu. Elle a 34 ans, elle est productrice de films, elle vit une vie normale, mais un soir, elle se réveille seule chez elle avec le pire mal de tête qu'elle ait jamais connu. C'est un AVC. Tout le monde craint pour sa vie, mais en fait, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à elle.
Something's happened to me, which nobody's really explained to me yet. I started seeing flashes of color, like...
Alors oui, elle n'arrive plus à bien parler, à lire, et plus du tout à écrire. Mais elle commence à voir de nouvelles choses, de nouvelles couleurs, à ressentir de nouvelles sensations. Les docteurs, eux, n'ont qu'un objectif, l'aider à redevenir celle qu'elle était. Mais pour Lotieu, c'est surtout un rappel déprimant de ce qu'elle ne pourra plus jamais être. Quelqu'un qui parle sans bégayer, quelqu'un qui travaille vite. Elle décide alors d'arrêter cette quête vers son moi d'avant parce qu'elle va pas les retrouver, ses capacités d'avant. Mais maintenant, elle en a d'autres, avec ce monde si différent qui s'ouvre à elle.
Whether it's my brain or reality, I can experience colors and sounds like I wasn't able to before.
Je vous recommande ce documentaire vraiment impressionnant et intéressant. Il nous fait rentrer dans une tête vraiment pas comme la nôtre. Il est même un peu psyché. D'ailleurs, il a été produit par David Lynch. Ce film a été réalisé par Lotieu Soderlund et vous pouvez le retrouver sur Netflix.
I'm never going to be the same. And in that discovery, I've become empowered.
À part le corona, il se passe quoi? C'est déjà fini. Merci à vous d'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et on vous en remercie chaudement. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Prune à Nantes et sur Radio Campus Tours, sur notre SoundCloud pour écouter les replays et sur notre compte Twitter. Et à lundi prochain, sans faute. Vous êtes toujours sur Prune 92FM dans la quotidienne faite à distance par les bénévoles de la radio. La série de fiction audio post-épidémique présentée par Émilie et réalisée par Harold arrive tout de suite dans Le Masque et la Prune pour le 3e épisode. Asseyez-vous confortablement et profitez du voyage.
Nos amis. Une fiction radiophonique dans un monde post-épidémique. Épisode 3. Clean City.
Aujourd'hui, je me tiens là, pensif. Je me rends compte que les aiguilles ont tourné et que je n'ai pas vu le temps passer. Cela fait 3 semaines que l'envie de partir vers un ailleurs nous avait tenté. Et nous avions, dans une nuit claire, voulu voler un zeppelin publicitaire. Cette nuit-là, secoué par le trac ou le bon sens, je n'avais pas pu sauter à cœur perdu sur l'échelle métallique suspendue au-dessus du vide urbain. Nelly, elle, était partie, avec l'espoir de trouver une île hors du temps. Parfois, il m'arrive d'y repenser. Mais voler est un délit, et le rappel à l'ordre fut sévère. Une amende fut à payer, et je perdis la moitié de mes points de civisme. Mon score entaché, je me voyais déferler vers les bas-fonds des mauvais citoyens. Sans demi-mesure, j'étais associé aux malhonnêtes, aux mauvais payeurs, aux pauvres crasseux, aux rejetés du groupe. Qui peut relever le pari de vivre dans une société comme un paria? Pas moi. Alors quoi? Il était normal de vouloir trouver une issue. Personne ne peut me blâmer d'avoir voulu vivre comme les autres. De toute façon, le choix n'était plus à faire. Et cela faisait longtemps que ce droit ne m'était plus attribué. J'ai donc dû récupérer mes points, en rachetant des pubs pour relever mon score. J'ai dû dénoncer des connaissances lointaines qui voulaient organiser des actes de rébellion contre des écrans de médiation publicitaire. J'ai dû faire des concessions, sans sourciller. Il le fallait. Il ne m'est plus permis de faire un pas de travers. J'ai trouvé un travail, pas bien payé certes, mais qui sert la communauté. Celui de réparateur de robots sanitaires. Ces petits bijoux de technologie sont essentiels pour garder la ville propre et apaisante. Malheureusement, ils sont bien souvent les premières victimes des vandales, enragés par leurs convictions. Je ne les juge pas. J'étais comme eux avant. Perdu.
On a tous le goût d'un habitant bien rangé, propre et accueillant. Grâce au nouvel Android de purification ADP547, redécouvrez la fraîcheur d'un chez-soi radieux. Clean Progress, une technologie pour vous. Vous gagnez un point de civisme.
Bonjour et bienvenue dans le journal de 13h. Au programme aujourd'hui, les actualités politiques qui font débat, le tsunami TS21 et les dernières découvertes technologiques. Mais commençons tout de suite ce journal avec l'actualité mode. Une nouvelle tendance a vu le jour depuis peu, on les appelle les bullets. Ces scaphandres sanitaires aux aspects rétro font fureur dans nos rues. Ces rues qui n'ont jamais été aussi propres dans toute l'histoire de l'humanité. Cela, on le doit à un certain Eugène Poubelle, qui, en 1884, inventa un récipient destiné à accueillir ce qu'il nomma « déchets ». Depuis plus d'un siècle, les poubelles, ces objets répugnants aux odeurs nauséabondes, ont disparu de nos quotidiens au profit des androïdes de purification. Leur invention a bouleversé notre société. Une nouvelle révolution est en marche puisque le dernier petit-né de la famille androïde, le ADP547, a des capacités que nul autre androïde ne peut égaler. Non seulement il nettoie tout sur son passage, mais il détecte les résidus avant même que vous les ayez vus.
Facturé entre la 3e et la 5e axe.
Ok. Bon. Allez.
Vous voulez inviter votre voisin à déjeuner ? Pas de soucis. Précommandez dès aujourd'hui l'assortiment de couverts jetables pour éviter tout.
Ah, ça doit être ici. Eh ben alors, mon grand, on t'a encore réglé ton compte ? Eh mais ouais, mais je t'avais dit de pas faire le beau devant les casseurs aussi. Bon allez, voyons voir ça.
Vous saviez avant, on avait des poubelles.
Pardon ?
Je disais, le robot là que vous réparez. Eh bien avant son existence, on avait des poubelles.
Ah.
C'était des sortes de sacs disposés dans les rues et dans les maisons pour jeter des indésirables. Puis des gens venaient les récupérer. Bon, les gens ne respectaient pas trop. Parfois, ils jetaient ça par terre et ça partait dans la nature. Comme maintenant, remarque. Sauf que les robots s'occupent de tout nettoyer pour envoyer tout ça dans les vallées d'assimilation, comme ils disent. Vous en pensez quoi, vous, monsieur ?
De quoi ?
Vous savez, les nouvelles technologies du robot que vous réparez, là.
Ah, vous savez, moi, je fais juste mon travail. Je vais pas commencer à critiquer ça. Et hop.
Vous voulez partir en vacances, mais vous avez peur de louer une voiture qui a été conduite par quelqu'un de potentiellement malade ? Nous avons la solution. CarSafe vous propose sa toute nouvelle voiture jetable à usage unique. Vous pouvez maintenant profiter de la vie. Vous gagnez un point de civisme.
Ah, vous aussi, vous avez acheté un pack pub ? Ma belle-fille aussi a investi. C'est bien pratique. Grâce à ça, mon fils et elle peuvent se faire livrer les couches du petit deux fois plus vite.
Ah oui ? Bon, je viens de terminer mon travail, je vais devoir y aller. Passez une bonne journée, madame.
Au revoir.
Vous avez déplu à quelqu'un. Vous perdez un point de civisme. Le taux d'humidité de l'air extérieur est au-dessus de la capacité d'engrangement de votre filtre. Veuillez remplacer la pièce dans les plus brefs délais afin de ne pas perdre de l'altitude.
Oh, franchement, elle commence à me rendre dingo cette voix, j'en peux plus. Bon, c'est quoi encore cette histoire? Ah ouais, d'accord. Ah, en effet, c'est pas joli à voir. Bon, comment je vais pouvoir trouver un nouveau filtre, moi? Nathan serait là et me dirait que j'ai pas bien préparé mon voyage. Que j'aurais dû prévoir ce type de situation, car chez nous, il y a tout. En quelques clics, on obtient tout ce dont on a besoin. Sauf que là, je suis seule dans mon ballon dirigeable et aucun moyen de me faire livrer. Enfin, aucun moyen de me faire livrer sans me faire repérer. Ah mais bien sûr! Une vallée d'assimilation! Il y a forcément un fil qui a dû y être jeté avant d'avoir commencé à être usé. Alors, si je me suis pas plantée dans mes calculs, il devrait y en avoir une pas loin d'ici. Bon allez, je tente le coup. Yes, je le savais, c'est sûr, c'est là! Ah ouais. Ah ouais, je me doutais que les vallées d'assimilation n'étaient pas belles à voir, mais là, je comprends mieux pourquoi on nous en parle et on nous les montre jamais. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ah bah super, hein, les Clean City, on comprend mieux pourquoi elles sont si clean, vos cities, hein. Comment est-ce que ce genre de choses est encore possible de nos jours ? Comment on peut accepter de détruire une partie de notre planète tout en fermant les yeux? Bon. C'est pas gagné, hein. Comment je vais pouvoir trouver un fit là-dedans? C'est un bordel sans nom. Attends, mais c'est quoi ça? C'est un android de purification ou je rêve? Non mais la blague, quoi. Même ces satanés androïdes qui servent à nettoyer nos villes se retrouvent ici comme de vulgaires déchets. On marche sur la tête, franchement. Clean City de merde. Attends. Mais je crois que Nathan m'avait parlé de ce genre de robot. Il semblerait bien que... C'est bien ce que je pensais. Allez, désolé mon pote, mais j'ai besoin de ça. J'espère que ça suffira à atteindre nos OMU.
Semaines, j'abritais une voix enragée qui me criait de partir. Le coup du sort m'a ramené sur la terre au lieu de me faire emprunter la voie des airs. Aujourd'hui, je relativise. Il y a des milliers d'années, l'humanité tentait de survivre à la faim et pour la plupart crever dans sa crasse. Nous étions faibles et en proie à un dur monde surmené par les maladies et la famine. Aujourd'hui, l'être humain a su surmonter les obstacles et mettre en place des outils et des fonctionnements pour se préserver et survivre, dans l'espoir d'être libre et apaisé. L'évolution de l'homme a fait ce que nous sommes, et nous nous sommes développés pour notre propre sécurité. De notre intelligence et pour nous protéger, nous avons façonné un système.
Ce système nous a façonnés. Nous avons grandi et assimilé tout sur notre passage. Aveuglés par notre confort, nous avons suivi les règles d'un jeu qu'on nous impose depuis notre enfance. Les propagandes du produit, les discours éloquents des politiciens, l'éducation conservatrice d'une société immorale, nous a fait développer la plus belle faculté humaine, le déni.
Nous vivons dans un système qui garantit notre sécurité. Mais la critique est facile pour celui qui se sent rejeté. Ils sont borgnes, les réfractaires qui crachent sur une société, qui les nourrit, les guérit et les protège. Mais regardez nos villes, la propreté et la sérénité qui s'en dégagent. N'est-ce pas préférable au désordre et à la crainte?
Ces villes ne sont que des illusions bien pensées, des posters en papier glacé qui cachent des vérités mâchées. On enfouit nos rejets, cachant les choses crasses de notre vue et altérant la vie pour un confort en excès. On bafoue l'eau, la terre, les êtres et on se force à ignorer que nos propres actions ne mènent qu'à la mort et au chaos.
Nous avons bâti de belles cités, et nous avons lutté contre les faims et la nature prédatrice.
Je veux me battre contre cette entité qui ne s'est forgée que dans les crimes.
Détracteurs, Ils ne veulent que l'anarchie.
Usurpateurs sans cœur qui ne créent que du mensonge.
Ils sont individuels, alors que l'humanité est un groupe.
Altèrent la vie pour un confort excessif.
Leur esprit étriqué ne voit qu'un fragment de ce monde. Quand est-ce qu'ils ouvriront les yeux
pour s'apercevoir de la réalité?
Bonjour, je voudrais réserver une table pour deux personnes. Pour ce midi, s'il vous plaît. Oui, c'est cela même. Au nom de De Gordon. Merci à vous aussi. Au revoir.
Nos amis. Une fiction radiophonique dans un monde post-épidémique. Épisode 3. Clean City.
Retour dans la réalité, on est toujours dans le masque et la prune, et c'est le retour de Titouan. Cette semaine, on plonge dans la crise sanitaire du point de vue de l'association Un enfant par la main.
Bonsoir chers auditeurs pruniens, il y a une semaine vous découvriez les parcours de Léa, cette jeune déléguée départementale de l'association de parrainage Un enfant par la main pour le 44, et qui nous a surpris par sa volonté et son ancienneté au sein de l'association. Aujourd'hui je vous propose d'écouter Chantal Gauthier, administratrice et responsable des actions bénévoles en France pour l'association, et qui est venue nous parler de l'association à l'épreuve de la crise sanitaire et déjà si ce n'est bientôt économique. Alors bonsoir Chantal Gauthier, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, Titouan.
Alors, je le rappelle, Un enfant par la main est une association qui agit à l'international via le parrainage des enfants démunis afin qu'ils puissent devenir des êtres autonomes et responsables et qu'ils échappent à la pauvreté et qu'ils aient accès à l'éducation. Avant de nous intéresser à l'association prise dans la tourmente de la crise sanitaire, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre parcours au sein d'Un enfant par la main ?
Eh bien, tout à fait. Alors, bon, je suis marraine dans cette association depuis 2002. Où je parrainais une petite fille du Kenya. Elle avait 8 ans à l'époque. Je suis ensuite devenue déléguée pour la Loire-Atlantique. Ça veut dire faire connaître l'association localement. Entre-temps, j'ai parrainé un autre enfant au Mali en 2007, un petit garçon du nom de Sori. Conjointement à tout ça, je suis devenue administrateur de cette association. Puis présidente nationale de 2012 à 2015. Et depuis, je coordonne les actions bénévoles. Et depuis très récemment, je parraine un troisième enfant à Madagascar, un petit garçon du nom de Rindra. Voilà.
D'accord. Donc, puisque vous êtes une des administratrices de l'association, vous avez sûrement dû être en contact avec le siège parisien. Est-ce que vous pouvez déjà dresser un bilan des conséquences de la crise du Covid-19, aussi bien sur le terrain qu'au niveau de l'organisation en France ?
Alors, pour parler de la France, toute l'équipe, il faut savoir que le siège donc, de l'association est à Nogent, en région parisienne. Et dans ce siège, il y a une douzaine de personnes qui travaillent, qui sont salariées et qui ont continué à travailler soit en télétravail, soit à l'association. Donc, le travail ne s'est jamais arrêté. Par contre, dans les délégations, il y a beaucoup d'actions du fait du confinement qui n'ont pas pu avoir lieu. Et donc, toutes les collectes se sont arrêtées. Donc, ça, c'est pour l'aspect, je dirais, France. Sur le terrain, dans tous les pays où nous sommes présents, les équipes, là aussi, ont continué leurs activités, mais au ralenti. Que ce soit à Haïti, Madagascar ou dans tous les pays gérés par Child Fund, on continue à mener des actions de sensibilisation, surtout à propos des gestes barrières. Et toutes ces actions de sensibilisation se font mais vraiment au cas par cas, puisque les équipes vont faire du porte-à-porte pour contacter chaque famille et leur dire et les mettre au courant de ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment notre travail de sensibilisation. Et également, nous distribuons des kits d'hygiène. Et ce qu'on appelle des beaux kits, B-O-K-I-T, hein, qui sont des petits barils d'eau que l'on distribue aux populations pour qu'elles aient l'hygiène, lavage des mains et autres. Donc c'est vrai que cette crise n'a pas forcément aujourd'hui impacté l'Afrique notamment, mais des pays comme le Brésil et comme certains pays d'Asie ont été très très fortement touchés. Donc il y a trois enjeux dans cette crise sanitaire. Un enjeu de sécurité alimentaire parce que les récoltes sont compromises et les repas donnés à la cantine dans les écoles que nous soutenons sont quand même très importants. Très important que les enfants aient un repas par jour. Un enjeu économique parce qu'il y a une perte de revenus des familles pendant cette période difficile. Et aussi un troisième enjeu qui est un enjeu pédagogique parce que on continue à faire de nombreuses actions dans les écoles, mais elles sont un peu différentes. Et en plus, certaines écoles n'ont pas rouvert, ce qui peut être très dangereux pour les enfants qui sont livrés à eux-mêmes.
D'accord.
Voilà.
Donc ça concerne les bénévoles et les personnes que vous aidez. Mais nous n'avons toujours pas parlé des donateurs de l'association, des parrains, comme il est plus juste de les appeler. Comment avez-vous géré leur lien avec l'association, mais aussi celui avec les enfants qu'ils parrainent? Ont-ils manifesté de l'inquiétude pour leur filleul? Y a-t-il des parrains qui sont peut-être rétractés pour un certain temps, pour des raisons économiques?
Alors, on a fait beaucoup de choses. On a essayé de faire beaucoup de choses. Tout d'abord, on a sur notre site internet, je vous conseille d'y aller, une situation qui est mise à jour tous les 8 jours sur tous les pays. C'est-à-dire que les informations qui nous remontent du terrain, pays par pays, sont mises à jour sur notre site internet pour savoir ce qui se passe dans chaque pays. Parallèlement à ça, on a envoyé des newsletters donc à tous les parrains donateurs qui étaient inscrits à notre news. Et ces news ont été segmentées par pays aussi une fois de plus, c'est-à-dire que telle news va donner des infos plus particulièrement sur Haïti, telle autre sur Madagascar. Par contre, c'est vrai que dans le parrainage, c'est envoyer aussi des lettres, c'est en recevoir. Et là, l'acheminement des lettres entre les parrains et les filleuls, ça reste encore compliqué. Et on a effectivement beaucoup de parrains qui ont manifesté des inquiétudes pour savoir comment ça se passait sur le terrain. Maintenant, comme je vous le disais, les pays d'Afrique ont été beaucoup moins touchés par le virus du fait que ce sont des populations jeunes et c'est tant mieux. Mais ce dont on est sûr, c'est que l'impact économique de la pandémie va vraisemblablement affecter de plein fouet tous les enfants défavorisés et leurs familles. Et c'est donc la raison pour laquelle on a créé sur notre site un fonds de soutien pour que les parrains ou tout autre donateur qui souhaite faire un don puisse aider ces populations qui sont en détresse, qui vont avoir des jours difficiles. Aujourd'hui, on n'a pas plus de rétractation, d'annulation que d'habitude. Mais on est bien conscient, comme beaucoup d'ONG, que la réalité économique va se faire sentir à la rentrée en septembre. Donc, pour l'instant, chaque chose en son temps. Il n'y a pas de baisse pour l'instant particulière au niveau des parrains. On a même beaucoup de nouveaux parrains.
D'accord. Et donc, l'association fait partie d'un grand réseau d'associations internationales, notamment avec l'association américaine Child Fund International. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous donner quelques informations sur l'état actuel du milieu associatif de l'aide à l'enfance dans le monde?
Alors, je n'ai pas ces éléments à vous donner, mais j'écoute ce qui se dit, hein, bien évidemment. Et ce que je peux vous dire, et ce dont je suis certaine, c'est que le parrainage est un vrai atout aujourd'hui pour continuer à soutenir les enfants et leurs familles, même si c'est compliqué en ce moment et qu'il y a un temps de pause sur toutes nos actions et que on a été plus ou moins forcés sur le terrain de rentrer dans une logique un peu d'assistanat, notamment pour tout ce qui est activité génératrice de revenus qui était à l'arrêt. Donc on a assisté les familles, on les a aidés de façon très concrète. Mais je pense que les ONG qui travaillent comme nous dans le domaine de l'enfance, via le parrainage, sont dans la même situation que nous. Et j'ai d'ailleurs vu quelques spots télé à propos d'autres ONG qui montrent que nous sommes plutôt dans l'action. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que on reste pas les bras croisés, même en ce moment. Toutes les ONG se bougent pour pouvoir aider le mieux qu'on peut. Voilà.
D'accord. Et concrètement, que change la crise du Covid-19 pour l'avenir de l'association ? Comment va-t-elle organiser son activité face aux récentes complications ? Mais aussi, est-ce qu'elle peut trouver à travers cette crise de nouvelles perspectives d'avenir ?
Alors, je dirais qu'il est un peu tôt pour tirer un bilan. On est en période de déconfinement et à propos de l'association, c'est encore un peu tôt. Mais ce qui est certain, c'est que le conseil d'administration et l'équipe des salariés vont devoir travailler une nouvelle stratégie de ressources, notamment pour tout ce qui est collecte, parce que en France sur le terrain, on peut plus faire de collecte sur les marchés, on peut plus les forums associatifs, ça va être compliqué. Je pense notamment à tous les partenaires entreprises qui nous aidaient et qui vont plutôt avoir à faire face à des réalités économiques que plutôt faire des dons. Donc oui, il va y avoir une réorientation, il va falloir mettre en place une nouvelle stratégie. On fait partie d'un syndicat qui s'appelle France Générosité et qui a d'ailleurs annoncé une baisse d'environ 40% des dons cette année, ce qui n'est pas anodin. Mais voilà, donc tout ce qui est dons ponctuels va risquer d'être sacrément diminué. Mais une fois de plus, le parrainage, qui lui est un don sur du long terme, puisque c'est 25 euros par mois, c'est vraiment la vraie réponse pour continuer à aider les enfants et leurs familles sur du long terme. Et je pense que tous nos efforts vont se porter sur cet enjeu.
Ouais, on a bien conscience que le parrainage est la force de l'association, puisque
c'est la force, c'est surtout ce qui permet d'aider les enfants sur du long terme, quoi. Oui.
D'accord. Et pour ces enfants, un message court et simple à faire passer suite à la période que nous venons de traverser.
Alors, je sais pas si c'est un message pour ces enfants, mais c'est un message, un message un peu général. On n'arrête pas de dire « prends soin de toi ». C'est vrai que prendre soin de soi, c'est une priorité aujourd'hui. Et on l'a tous vécu à différents stades. Mais prendre soin des autres, je pense que ça l'est tout autant. On a vu que les soignants dans les hôpitaux, on a vu que les personnes qui nous ont permis que nos supermarchés continuent de marcher pendant le confinement, enfin, on a vu que tous ces gens-là prenaient soin des autres, en fin de compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, prendre soin des autres et prendre soin des enfants, les enfants doivent être les premiers à être protégés, et en particulier les enfants qui vivent dans la précarité. Donc parrainer un enfant, c'est vraiment une des réponses, quoi. Parrainer. Voilà.
Eh bien, je vous remercie, Chantal Gauthier, d'avoir accepté notre invitation. Et merci.
Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est que on va sortir au mois de juin un livre sur des témoignages sur le parrainage. Et je vous engage, c'est un livre extrêmement émouvant avec des témoignages de rencontres, des témoignages d'enfants parrainés qui sont maintenant adultes et qui ont un métier. Je vous engage, dès que ça sera sur notre site, à aller le consulter. Ce livre sera en vente au profit, bien évidemment, de nos actions. Et puis aussi, je vous engage à rejoindre la page Facebook Délégation bénévole un enfant parrainé. par la main 44, où cette page est devenue très active depuis quelques mois parce qu'une bénévole l'a vraiment pris à bras-le-corps. Il y a énormément d'informations sur délégation bénévole Un enfant par la main 44. Voilà.
D'accord, alors n'hésitez pas à aller consulter le site internet d'Un enfant par la main ou même d'aller suivre les réseaux sociaux de l'association. Encore une fois, merci Chantal Gauthier d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, un grand merci à vous.
Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce feuilleton sur la crise du Covid-19 à travers les yeux de l'association Un enfant par la main. Je vous invite dès maintenant, pour ceux qui auraient manqué curiosité de lundi dernier avec la première partie du feuilleton, à se rendre directement sur le site internet de Prune pour accéder au podcast. Et à ceux de plein d'autres émissions. Je m'appelle Tito Rio et je vous souhaite une excellente soirée sur Prune 92 FM.
La quotidienne de Prune 92 FM est terminée pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. L'équipe du lundi revient dans 7 jours, même à distance, pour vous raconter ce qui se passe à Nantes et dans le monde. Et rendez-vous dès demain 18h pour retrouver l'équipe du mardi. Cette émission est bien sûr disponible en podcast sur prune.net. A très vite et surtout, prenez soin de vous.
Le masque et la prune. C'est une capsule sonore à retrouver sur Prune chaque jour à 18h, tant qu'il y aura des masques.